Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, bonne année. Bienvenue dans Politiquement Vôtre, la grande émission politique imaginée par les acteurs sociaux des centres Goscinny et Houdiné pour Mon Paris FM. Dans ce programme, des jeunes, politisés ou non, font face à des personnalités politiques afin d'échanger sur des sujets qui les concernent directement et mieux appréhender l'impact concret de la politique sur leur vie quotidienne. Aujourd'hui, je suis avec deux jeunes, Jeloul et Timéo. Jeloul, comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va super. Première fois que tu fais de la radio?
Première fois.
Pas trop stressé?
Non, pas trop, ça va.
Timéo?
De même.
De même?
Ouais.
Première fois, pas trop stressé?
Non, ça va.
Ok, super. Donc toi, Timéo, tu as 16 ans.
C'est ça. Hein,
tu es en première STMG, tu voudrais travailler dans le marketing ou les ressources humaines. T'es curieux, tu te définis aussi comme créatif et t'es un fan de foot.
C'est ça.
Exactement. Très bien. Et je crois que fan de foot, c'est aussi ton cas. Jeloul, toi, t'as 14 ans. Tu es en classe de 3e et tu fais d'ailleurs du foot à l'ES Paris 13,
c'est
ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc c'est tous les deux les jeunes qui vont nous accompagner aujourd'hui sur Politiquement Vôtre. Et aujourd'hui, vous allez poser des questions à notre invitée qui est Anna Bikouloulou, qui est la secrétaire nationale des jeunes écologistes. Comment ça va, Anna ?
Bah bonjour, merci pour l'invitation, ça va plutôt bien.
Première fois que tu fais de la radio aussi ou t'es plus habituée à ce format ?
Alors, j'en ai déjà fait, mais j'irai pas jusqu'à dire que je suis habituée.
D'accord, très bien. Bah, tout d'abord, je vais te présenter. Comme ça, on saura tous un peu qui on est les uns les autres. Moi, c'est Lucas. C'est moi qui présente l'émission aujourd'hui. Et ensuite, on va présenter Anna. Et ensuite, on pourra commencer le jeu des questions-réponses. Donc, Anna Bikouloulou, tu as 26 ans. Tu es engagée politiquement depuis maintenant 2 ans chez les écologistes. Toi, qui te définis comme une militante écoféministe et antiraciste, tu as d'abord démarré dans le milieu associatif, notamment pour l'association Humans for Women, où tu faisais la sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collèges. Avec cette association, tu as aussi également monté 2 bibliothèques féministes et proposé des cours de français à des femmes exilées avec des gardes d'enfants pendant les cours. Désireuse de t'engager plus concrètement à la fin de tes études, tu rejoins les écologistes après la primaire en vue des élections présidentielles 2022. Une évidence pour toi qui a toujours eu la fibre écolo. Très rapidement, tu montes les échelons chez les jeunes écologistes. Tu intègres le bureau des jeunes écologistes d'Île-de-France, puis deviens responsable de la formation, puis responsable régional, tout ça en moins d'un an. Tu entres ensuite au bureau national des jeunes écologistes avant d'être élu secrétaire national avec Emma Chevalier en août 2023. Grande particularité du mouvement des jeunes écolos, vous êtes 2 représentantes, donc il n'y a pas une chef, vous êtes 2. Ensemble, vous menez un combat fort contre toutes les formes de domination, en particulier contre le patriarcat. Donc le féminisme est très présent chez les jeunes écologistes, avec notamment une forte parité au sein de votre organisation. Anna Bikouloulou, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe quand il y a un binôme de chefs? Est-ce qu'on se répartit les tâches? Est-ce qu'on se dispute? Comment on fait quand on n'est pas d'accord? Concrètement, comment ça se passe d'être 2 chefs?
Alors, déjà, je suis assez impressionnée par le nombre d'informations que vous avez réussi à avoir.
J'ai fait des petites recherches avant de t'inviter.
Bien joué. Écoutez, ça se passe très bien avec Emma. Je pense que le fait d'être dans un binôme avec 2 femmes, c'est assez aidant parce que du coup, par le passé, enfin nous, on est vraiment le premier binôme de notre organisation à être 2 femmes. Par le passé, c'était un binôme, un mec, une meuf, quoi. Et il y avait souvent des tensions, en fait, qui apparaissaient au cours du mandat parce que souvent, il y avait une mauvaise répartition des tâches. Souvent, où les hommes prenaient plus les tâches vers l'extérieur, la représentation, aller voir les stars, les gens et tout un peu stylé. Et les meufs qui se retrouvaient à faire un peu les tâches que personne ne veut faire, tout l'administratif et tout. Et c'est vrai que nous, du coup, on n'a pas ce problème. On se répartit beaucoup plus naturellement les choses. On se parle aussi assez franchement, assez ouvertement de tout. Et puis, du coup, on est aussi... on a les mêmes problématiques, quoi. Et c'est bête à dire, mais typiquement, quand vous m'avez dit qu'il y aurait une petite vidéo, j'étais en mode, mince, mon maquillage. Bon, ça, Emma, elle le comprend. On veut en discuter avant chaque intervention qu'on doit faire. On panique un peu ensemble, en mode, qu'est-ce qu'on va mettre? Et ça, c'est des choses qui, mine de rien, créent aussi un peu de lien entre nous Et ça fait qu'on est assez proches et qu'on travaille bien ensemble, donc c'est assez cool.
D'accord, donc le binôme pour être chef, en fait, c'est juste de la complémentarité. Il n'y a pas de souci de qui décide, il n'y a pas de rapport de, comment dire, d'autorité l'une sur l'autre, c'est ça ?
Bah, franchement, non. Et puis nous, on a poussé le truc assez loin, c'est-à-dire que du coup, dans tous les 4 postes les plus importants de notre organisation, il y a vraiment 4 femmes. Donc de ce côté-là, franchement, ça se passe super bien et d'autant mieux que vraiment, on se parle assez librement. On a aussi la même ligne, ça aide, c'est vrai. Mais du coup, franchement, moi, je recommande hein, travailler qu'avec des femmes, ça fonctionne plutôt bien.
Et pas de chef, du coup, c'est bien aussi. Pas un seul chef, en tout cas, si on est plusieurs à décider, c'est bien aussi. Du coup, maintenant, on va commencer la première partie de l'émission, on va parler de ton parcours, et je vais laisser Djelloul poser la première question.
Ben, Abikouloulou, où avez-vous grandi ?
Alors, moi, de base, je viens de Picardie, d'un petit village à côté de Beauvais. Vous connaissez peut-être l'aéroport de Beauvais. Bah, moi, je suis un petit village à côté. Et du coup, bah, j'ai plutôt grandi dans une zone rurale. Genre, il y a quoi ? Il n'y a même pas 1000 habitants dans mon village. C'est quand même vraiment tout petit. Mais du coup, effectivement, bah, du coup, tu en as un peu parlé dans l'introduction. C'est un tout petit village, mais on a quand même eu pas mal de... Comment dire ? Il y a eu pas mal de mobilisation dans ce village parce qu'à un moment, bah déjà, il y a l'usine du village qui a fermé, donc il y a eu pas mal de chômage, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées bah, un peu sans solution. Donc ça, ça a beaucoup marqué l'histoire du village. Et il y a aussi eu bah, toute cette mobilisation contre la fermeture d'un incinérateur. Enfin, la fermeture. On voulait construire un incinérateur justement sur le site de l'ancienne usine. Et du coup, le village s'est vraiment beaucoup mobilisé, genre pendant plusieurs mois contre ce projet. On a réussi à faire en sorte que le projet n'aboutisse pas. Et bah depuis, justement, l'une des personnes qui était un peu à la tête de cette mobilisation-là est devenue maire du village. Donc voilà, un petit village, mais qui fait beaucoup de choses, quoi.
D'accord.
Très bien. Timéo, je crois que toi aussi, tu as une question.
Ouais. Quel a été votre parcours scolaire et universitaire et votre relation avec l'école ?
Alors, du coup, j'avoue que moi, j'aimais beaucoup l'école. je ne sais pas si c'est moi, personnellement, qui ai beaucoup l'école ou mes parents aussi qui m'obligeaient à beaucoup aimer l'école. J'avais des parents qui étaient en mode l'école. Mais du coup, bah, j'ai fait mes études bah, du coup, jusqu'au lycée, bah, justement, à Beauvais. Et ensuite, pour mes études, je suis venue à l'université à Paris. Du coup, j'ai fait une licence d'histoire et de sciences politiques à Paris 1, donc dans le 13e. Et ensuite, j'ai fait un master de sciences politiques, toujours à Paris 1. J'ai pas quitté, je suis arrivée dans le 13e, je l'ai plus jamais quitté. Et voilà. Et puis depuis, maintenant, je travaille. Et je travaille aussi dans le 13e. Donc vraiment, je fais tout ici maintenant.
Tu fais quoi comme travail ?
Bah, je travaille avec la députée d'ici, Sandrine Rousseau.
D'accord, très bien. Donc vraiment 13e, quoi. Ouais. On a une locale. Djelloul, à toi. Vas-y, t'as une question encore.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager politiquement et à défendre la cause écologique ?
C'est une très bonne question parce que très honnêtement je pense que je suis une erreur statistique quand on voit les personnes qui font de la politique généralement c'est pas des gens qui me ressemblent c'est souvent des personnes blanches qui sont nées à Paris, qui ont fait toute leur vie à Paris qui ont de l'argent qui connaissent des gens qui ont des connexions quoi. Donc bah, quand t'arrives et que t'es une petite meuf noire, jeune les gens s'attendent pas forcément à ça quoi. On sent que ça gêne un peu les gens, voir que voilà, ça, ils n'ont pas l'habitude, quoi. Déjà, c'était pas du tout une évidence. Et puis par ailleurs, bah, moi, mes parents, c'est tous les deux, ils sont arrivés en France dans les années 80-90. Donc, je suis vraiment la deuxième génération en France. Donc, on n'avait pas non plus forcément d'ancrage, etc. Donc, moi, mes parents, c'est pas eux qui... on ne parlait pas de politique à la maison. On ne parlait pas d'histoire ou ce genre de choses, quoi. Moi, c'est vraiment tout par l'école. Et heureusement, j'ai une grande sœur, donc elle m'a aussi beaucoup aidée là-dedans. Mais du coup, c'est vraiment par mes études et le fait aussi d'arriver à Paris, pour le coup, que ça m'a beaucoup aidée. Maintenant, je pense quand même que mes parents m'ont appris un certain nombre de choses qui ont fait que je me suis engagée en politique. Plus ou moins volontairement, c'est-à-dire que bah, le fait d'être... d'être du coup de la deuxième génération en France, c'est assez particulier comme expérience en réalité, parce que bah, on vit quand même un sacré paquet d'injustices. c'est-à-dire que bah, moi j'ai vu très concrètement le fait que la violence administrative. Genre vraiment, quand tes parents vont à la CAF ou autre, les gens qui leur parlent super mal. J'ai vu aussi, plus du coup, du côté de mon père, la violence policière. Enfin, qu'est-ce que c'est que te faire contrôler au faciès, etc. Donc en fait, t'as quand même plein de micro-agressions en fait, qui te font te rendre compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Donc il y a déjà ça. Je pense aussi qu'il y a le côté où, forcément aussi, quand on est enfant d'immigré, et je pense qu'il y a plein de personnes qui se reconnaissent là-dedans, il y a un peu ce côté où tes parents, ils ont pas fait, ils sont pas venus ici de l'autre bout du monde pour que tu fasses rien, quoi. Il y a un peu un côté où du coup, il faut que tu fasses des choses, et il faut aussi que tu rendes un peu ce qu'on t'a donné aux autres. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me suis toujours un peu engagée dans l'associatif. Genre, j'ai commencé au lycée et j'ai jamais vraiment arrêté, quoi. Parce qu'il y avait un peu ce côté où on t'a donné une chance, du coup, maintenant, il faut que tu rendes le truc aux autres. Et ça, ça m'a toujours tenu à cœur. Mais du coup, l'associatif, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de moyens. Donc, j'ai fait ça pendant un petit moment. J'ai fait ça, du coup, depuis le lycée et jusqu'à la fin de la fac. Et à un moment, j'étais en mode, ok, d'accord, on donne des cours, on essaye de faire des trucs par-ci, par-là, mais en vrai, on n'a pas de thunes. On dépend des appels à projets quand il y en a. C'est hyper compliqué à remplir. Tu as des réponses 40 ans après. En fait, il faut aussi aller là où il y a l'argent, là où il y a le pouvoir. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais tenter de m'engager aussi un peu en politique. Et par ailleurs, du coup, comme je vous ai dit, j'étais à Paris 1, et à Paris 1, il y avait tout le temps des mobilisations sociales, genre. Ma fac était bloquée tout le temps. C'était assez fou comme expérience.
C'est un peu la réputation de Paris 1, ouais.
Ce n'était pas fou, en tout cas, à cette époque-là. Et du coup, j'étais en mode, ok, là, j'arrête la fac. Il y a un truc, j'ai pas envie de perdre le fil. J'ai envie de continuer à me mobiliser. J'ai envie de, d'aller là où on peut vraiment changer des choses. Et c'est là que je me suis engagée, du coup, en politique. Et du coup, chez les écolos. Ce qui n'était pas forcément une évidence, par ailleurs. Parce que, effectivement, j'avais une fibre écolo, mais je sais pas, moi, quand je voyais les écolos, je me disais, ok, c'est que des blancs bobos, enfin, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, quoi. Et j'ai vraiment eu un travail de déconstruction de mes propres préjugés à faire, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était totalement faux de penser que l'écologie, c'était qu'un truc. Pour les gens qui habitent dans les centres-villes, qui sont qui ont de l'argent et tout. Parce qu'en fait, concrètement, au moment même où on parle, il y a des gens partout dans le monde qui souffrent en fait de la crise écolo. Et c'est pas des blancs. En fait, c'est genre au Pakistan. Moi, je me souviens, la dernière fois, je parlais avec un monsieur et il me disait, enfin, il était pakistanais, il me disait, moi, le village où je vivais, il n'existe plus parce qu'en fait, avec la montée des eaux, les gens ont été obligés de quitter les territoires qui étaient du coup au bord de mer et de rentrer plus en amont dans les terres. Et ils me disaient, toute ma famille a dû partir. Ils ont dû faire partir plein de gens. Et donc ça, c'est hyper concret et c'est vraiment maintenant, quoi. Pareil, quand on voit les sécheresses qui poussent aussi les familles à demander plus d'aide à leurs filles, du coup, on déscolarise des filles dans certains pays pour qu'elles puissent aider leur famille à aller chercher d'eau dans des pluies qui sont de plus en plus loin. Enfin, en fait, c'est des trucs où tu dis, mais en fait, l'écologie, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est hyper important, quoi. Et c'est pas que du prisme de ouais, il faut manger bio et tout. Il faut le faire, évidemment, c'est hyper important. Mais il y a aussi vraiment cette question de solidarité avec les autres pays qui, en ce moment même, sont en train de souffrir, en fait, à cause de notre inaction.
Très bien, je te remercie. Je crois que tu as une question en plus qui va en ce sens, Timéo, vas-y.
J'aimerais savoir quelle est l'importance de l'écologie dans notre monde et dans notre société actuelle, s'il vous plaît.
Moi, je pense que c'est vraiment fondamental parce qu'en fait, ça touche vraiment à tout. C'est-à-dire que l'écologie, ça touche à notre santé. Genre aujourd'hui, par exemple, en France, il y a tous les ans 40 000 personnes qui meurent à cause de la pollution de l'air. Et ça, en fait, c'est des morts qu'on aurait pu éviter. Genre, c'est pas des morts qui tombent de nulle part, c'est vraiment des choses qui peuvent être évitées. Ça touche évidemment aussi à la manière dont on traite la planète. Genre, concrètement, quand on va raser la forêt en Amazonie pour pouvoir cultiver du soja parce qu'on veut toujours augmenter notre consommation de viande, en fait, ça a aussi des conséquences qui sont très concrètes. Enfin, en fait, quand on parle de l'écologie, il faut vraiment bien comprendre qu'on parle vraiment de comment est-ce que on fait pour habiter sur la planète de manière à ne pas dominer la nature, pas dominer les animaux, pas dominer les êtres humains les uns les autres. Enfin, en fait, comment est-ce qu'on arrive à créer en fait une harmonie, j'ai envie de dire. Et en vrai, une fois qu'on pose la question comme ça, c'est hyper compliqué. On se rend compte quand même que le système n'est pas fait pour qu'on fonctionne en harmonie. Le système est plutôt fait pour qu'on se tape un peu tous les uns sur les autres. Et du coup, le combat est assez, assez dur, mais je pense qu'il est important à mener, quoi.
Très bien. Moi aussi, j'ai une question. C'est mon tour. En 2022, tu t'es engagé en politique, du coup, à l'occasion des élections présidentielles. Et à ce moment-là, il y a plusieurs ONG qui avaient fait des rapports sur les programmes écologiques des candidats. Et celui de Jean-Luc Mélenchon était parfois jugé plus ambitieux que celui d'Yannick Jadot. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que finalement, vu ton engagement, tu t'es tourné vers les écologistes et pas vers un autre parti de gauche ?
Alors, j'ai hésité. Très honnêtement, ce n'a vraiment pas été la voie la plus évidente pour moi, les écolos. Mais ce qui m'a convaincue d'aller chez les écolos, c'est vraiment la vision de l'écologie que ça prône. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que s'il y a des crises écolos, c'est parce qu'il y a vraiment des crises plus larges dans notre rapport aux autres humains, à la nature, aux animaux, et que donc c'est parce qu'il faut réparer ce lien-là qu'il faut réussir à que c'est en réparant ce lien-là plutôt qu'on arrivera en fait à gagner la bataille écolo. Et en fait, justement, dans l'écologie, moi, j'ai retrouvé des choses qui me semblent hyper importantes, justement, si on veut gagner ce combat-là. C'est notamment la question du fédéralisme. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais pour dire qu'en fait on considère que nous, on ne considère pas qu'il faut concentrer tous les pouvoirs à un seul et même endroit. Genre, on ne concentre pas tous les pouvoirs à Paris, tous les pouvoirs en France. C'est qu'on se dit que chaque échelon, en fait, a sa propre importance. Et c'est-à-dire que, on considère que, par exemple, la crise écolo, elle est tellement importante que ce n'est pas possible de la gérer que chacun dans son coin. Genre, on ne va pas, nous, en France, gérer notre petit incendie et puis l'Espagne gère son petit incendie, etc. En fait, la crise écolo, c'est lié à notre système politique globale, et donc il faut qu'on trouve des solutions globales tous ensemble. Donc nous, on est pour, par exemple, le fait d'être plus liés au niveau de l'Union européenne, genre d'avoir que les pays au niveau de l'Union européenne travaillent davantage en concertation. On est aussi pour, du coup, à l'inverse, qu'au niveau local, les personnes, elles aient plus de pouvoir aussi, parce qu'en fait, le niveau local, c'est un échelon qui est hyper utile, en fait. On peut faire énormément de choses. Et du coup, les écolos, ils se mobilisent du coup beaucoup, notamment au moment des municipales, parce que c'est vraiment le moment de redonner aussi vraiment de la démocratie plus directe et de faire des choses pour l'écologie plus localement. Donc moi, c'est vraiment ça aussi qui m'a convaincue, c'est cette idée que, en fait, effectivement, chaque échelon est légitime pour les différents enjeux qui nous entourent aujourd'hui. Et aussi, cette idée de démocratie participative qui me semble être assez importante. Genre, nous, dans notre fonctionnement, on est très attachés à la parité. Genre, par exemple, nous, chez les jeunes écologistes, quand on fait des réunions, les femmes doivent avoir le même temps de parole que les hommes. Genre, on fait attention à ça, on fait des alternances femmes-hommes. Genre, deux hommes ne peuvent pas prendre la parole l'un après l'autre. On essaye aussi de pousser les personnes à s'engager, y compris les personnes qui ne viendraient pas forcément spontanément, parce qu'on sait que les personnes, elles se mettent souvent des freins. Donc, tous ces mécanismes-là, je trouve, qui visent à rendre aussi la politique accessible à tout le monde, tous les partis ne le mettent pas en place. Et nous, du coup, on le fait chez Jeunes Écolos, c'est aussi fait chez les écolos. Et moi, ça me semble vraiment important, en fait, de faire en sorte que la politique ne soit pas juste le truc de quelques personnes, mais que ce soit vraiment pour tout le monde.
Très bien. Djeloul, vas-y.
Avez-vous un cheval de bataille, un thème ou un combat que vous désirez particulièrement porter, vous ?
C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est les deux thématiques par lesquelles moi je suis rentrée du coup plutôt en politique. C'est vraiment la question du féminisme et la question de la santé. Et en fait, c'est des questions qui d'ailleurs sont très liées, parce qu'on voit que en termes de santé des femmes, on a des retards énormes en termes de recherche. La recherche sur la question des santé des maladies qui arrivent du coup plus aux femmes, les maladies gynécologiques, ça, elle est mais complètement en retard. Sur tout ce qui va être l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, enfin, tout plein de choses. On voit que, en partie parce que je pense que la médecine est un peu misogyne, on a beaucoup de retard là-dessus. Du coup, on a des femmes qui souffrent pendant des années, qui n'ont pas de diagnostic, elles sont en fait dans une errance totale. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et du coup, la question de la santé aussi, à travers du coup la question de la santé environnementale, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, on voit par exemple qu'il y a de plus en plus de cas de cancer, et c'est des cancers qui arrivent de plus en plus tôt. Et en fait, ça, c'est pas un hasard, c'est aussi lié à tous les aux pesticides, à tout ce qui va perturber en fait les systèmes hormonaux. Et du coup, moi, c'est aussi pour ça que je me suis vraiment engagée en politique, parce que ça me semble important aussi de voir en fait que comment dire, la manière dont notre système de production fonctionne, c'est-à-dire la manière dont on produit à manger, la manière dont on produit des biens de consommation, etc., bah, ça a vraiment des impacts, mais y compris sur nos corps. Et ça, c'est hyper important, je pense, pour vraiment aussi aller au bout de la réflexion écolo. C'est pas seulement se dire que c'est l'écologie comme un concept abstrait, c'est vraiment hyper concret, en fait. Genre, c'est qu'est-ce qui nous pollue et qui aujourd'hui bah, rend les personnes stériles, qui demain, on ne sait pas, va peut-être aussi créer des maladies plus graves encore, quoi.
Très bien. Timéo, je crois que c'est à toi.
On sait que la jeunesse, elle a un grand rôle dans la société. Moi, j'aimerais savoir comment justement cette jeunesse pourrait prendre part à l'écologie et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider à cette démarche.
Alors, c'est vrai que du coup, c'est une question qui n'est pas évidente et à laquelle on essaye de répondre nous-mêmes du coup chez les jeunes écologistes, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de jeunes qui croient en plein de choses, mais qu'ils ne vont pas forcément s'engager dans des partis politiques, ce que je comprends. Mais je pense quand même que c'est hyper important, en fait, et d'aller dans des associations, et d'aller dans des syndicats, et d'aller dans des partis politiques, parce que ça reste quand même les premiers interlocuteurs que vont prendre que va prendre le gouvernement, que vont prendre les mairies, que vont prendre les régions. Enfin, en fait, ça reste quand même les acteurs qui sont les plus en place aujourd'hui. Et si on veut que précisément le message qu'ils transmettent, ce soit un message qui correspond à ce que nous, on veut, je pense qu'il faut du coup être dans les partis et en interne, vraiment appuyer tout le temps pour leur demander d'avoir une ligne qui soit cohérente, d'avoir une ligne qui corresponde à tout le monde. Et voilà. Et du coup, sur l'écologie, évidemment, moi, je vous dis, engagez-vous dans des assos. Il y a des assos qui font des trucs géniaux. Je pense à des mouvements aussi, genre comme les Soulèvements de la Terre, qui font des trucs trop bien. Je pense à des associations qui sont plus des obéissances civiles, genre Extinction Rébellion et tout, qui font aussi un taf incroyable. C'est des associations qui, à la fois, font des actions concrètes sur le terrain, mais qui aussi font beaucoup de travail de fond, de recherche, qui ont des chiffres, hein, en fait, qui permettent aussi de mettre des sujets sur le devant de la table. Et ces associations-là, elles ont besoin d'aide et de soutien. Donc, rejoignez des assos, mais rejoignez nous aussi. Rejoignez les jeunes écolos, rejoignez les partis écolos. Enfin, en fait, on a besoin aussi d'avoir des gens qui vont réussir à amener aussi leur vécu, vont réussir à amener ce qui est important pour eux et qui vont aussi nourrir en fait la ligne qu'on va porter, quoi.
Et voilà, il faut s'engager, c'est un peu ce que tu as dit. Alors on va juste écouter un petit jingle, 5 secondes, petite pause, et on va repartir pour la deuxième partie de l'émission. Dans cette partie, on parlera plus d'écologie et de la gauche en elle-même. Je vais commencer avec Djelloul, je crois que tu as une question encore.
L'écologie et le développement durable sont aujourd'hui des enjeux de société majeurs. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir une matière dédiée au développement durable à l'école ?
Ok. Effectivement, je pense que l'écologie, il y a un peu un paradoxe où à la fois, c'est partout et c'est nulle part. Donc, on en parle beaucoup à la télé, on en parle beaucoup un peu partout, mais en même temps, il n'y a pas trop d'action concrète derrière. Du coup, moi, je trouve ça assez positif, l'idée de faire des cours qui seraient dédiés à la question. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on se dise « Ah bah voilà, il y a un cours, donc maintenant, la question est réglée, quoi ». Qu'il faut que derrière, ça s'accompagne de moyens en fait, qu'on va ensuite aussi mettre très concrètement déjà pour que ces cours existent. Parce qu'en fait, quand on voit, par exemple, normalement, on est censé avoir des cours à l'éducation, à la vie affective et sexuelle qui n'ont jamais lieu dans les écoles. Donc,
très peu.
Voilà. Donc déjà, si on le met en place, il faut qu'il y ait les moyens pour que ça ait vraiment lieu. Mais ensuite aussi, que ce ne soit pas un moyen de se dédouaner et de rien faire derrière. Il faut quand même ensuite mettre l'argent sur la table pour vraiment engager la bifurcation écologique. Parce qu'aujourd'hui, ne pas agir, c'est nous coûte beaucoup plus cher que d'agir et tous les investissements que ça nous demanderait. Donc voilà, ce serait plutôt ça ma réponse. Oui, il faut le faire, mais le faire vraiment et pas faire que ça.
D'accord.
Très bien. Vas-y, Timéo, à toi.
On sait qu'il y a plusieurs principaux moteurs de la crise écologique et il y en a un qui revient souvent, c'est la surconsommation. Et moi, j'aimerais bien être un peu éclairci sur ce sujet et j'aimerais savoir comment... on peut être sensibilisé à ce problème et surtout des solutions simples pour y remédier.
Sur la question de la consommation, c'est pas évident parce que à la fois, je pense qu'il faut pas qu'on ait des discours qui soient qui culpabilisent les gens parce qu'en réalité, c'est encore une fois, c'est pas tant individuellement que qu'est-ce qu'en tant que société on fait qui pousse les personnes aussi à surconsommer. Et c'est vrai que par exemple aujourd'hui, bah les modèles de réussite qu'on a, c'est des personnes qui ont plein d'argent, qui vont vivre à Dubaï, qui ont 4000 voitures, qui font du quad dans le désert et tout. Enfin, en fait, tous les modèles qu'on nous donne, c'est des modèles qui sont complètement anti-écolo. Et en fait, l'image qu'on nous donne de ce que c'est de réussir dans la vie, c'est une image d'une personne qui consomme énormément, etc. Alors qu'en réalité, bah, c'est possible de vivre bien et d'être heureux en n'étant pas du tout dans ce modèle-là de vie. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment faire ce travail-là aussi de qu'est-ce qu'on donne à voir de ce que ce serait une vie qui serait bien. Et en fait, moi, je pense que ce qui serait une vie bien, ce serait aussi une vie où tout le monde ne tombe pas malade à cause des pesticides, où les gens vivent dignement parce qu'en fait, ils ont un minimum vital et qu'ils sont, voilà, qu'ils ont un minimum vital en termes d'argent, en fait, vraiment parler d'argent, que ce soit des personnes qui aient un toit sur la tête où elles n'ont pas froid l'hiver et chaud l'été. Enfin, en fait, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive en tant que société à revoir nos modèles et qu'une fois qu'on aura revu nos modèles, ce sera aussi plus simple pour les personnes individuellement d'adapter aussi leur manière de consommer. Et du coup, évidemment, je ne peux que conseiller aux personnes là tout de suite, parce que c'est un peu plus long de revoir nos modèles de société, de faire des gestes effectivement au quotidien, genre tout ce qui va être compost, tout ce qui va être d'essayer...
Le tri.
Voilà, de faire le tri. C'est des gestes qui sont utiles et qui sont hyper importants, mais je pense aussi qu'il faut essayer de faire cet effort aussi, de voir aussi de manière plus globale comment est-ce qu'on peut faire pour forcer un peu le changement de mentalité, quoi.
Et voir plus loin aussi.
C'est ça. Justement, je vais rebondir sur ta question, Timéo, parce que j'ai vu une vidéo à l'occasion de, à la période de Noël, il y avait une femme qui travaillait dans la grande distribution, qui travaillait pour un grand magasin, et on la voyait jeter à la poubelle de nombreux aliments, notamment du poisson, du saumon. Et j'ai deux questions par rapport à ça. Quelles sont quelles sont les mesures que vous prenez par rapport au gaspillage, et quelles sanctions pour la grande distribution qui gaspille autant de nourriture?
Alors, il y a un vrai sujet autour de la grande distribution, parce qu'aujourd'hui déjà, la grande distribution se fait des marges énormes sur un certain nombre de produits. Donc, ce que propose le NFP, enfin le Nouveau Front Populaire, et enfin, c'est ce qu'il proposait dans son programme, c'était notamment aussi d'agir sur les marges de la grande distribution, parce qu'en en fait, il n'y a pas à se faire autant d'oseille sur le dos des gens. Sur la question de du gaspillage alimentaire, là, c'est pareil, en fait. C'est aussi qu'il y a certaines... Enfin, comment dire ça en le disant bien. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le gaspillage alimentaire, mais y compris d'aliments qui sont encore bons, en fait.
C'était le cas sur la vidéo en question, bien sûr.
Parce qu'en fait, il y a effectivement les aliments qui sont abîmés, etc. Mais il y a des aliments qui sont encore bons à la consommation. Donc effectivement, nous, on est pour tout ce qui va être initiative qui vise à remettre dans le circuit en fait tous ces aliments-là. Il y a de plus en plus d'initiatives de ce type qui existent, mais du coup, qui sont des initiatives privées. Nous, on pense qu'au contraire, il faut que ce soit des choses qui soient faites au niveau national, que ce ne soit pas juste des initiatives de chaque côté, le petit magasin du coin qui le fait dans son coin. Au contraire, il faut qu'au niveau national, on arrive à imposer justement de nouvelles normes par rapport à ça, effectivement, tout en gardant la question sanitaire, mais en même temps, en obligeant les personnes aussi à, encore une fois, à changer de prisme. Parce que souvent, pourquoi est-ce qu'elles jettent? C'est parce qu'elles se disent que ça leur coûtera moins cher de jeter plutôt que de donner. Et en fait, c'est aussi tout un autre paradigme qu'il faut qu'on ait. Et qu'en fait, le fait que des personnes puissent se nourrir est peut-être plus important que tout ça encore. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de prôner au niveau national, quoi.
On devrait pouvoir se mettre d'accord là-dessus, effectivement. Djelloul, vas-y, ta prochaine question.
Les multinationales sont les entreprises qui polluent le plus et détruisent la planète. Comment leur faire face? Comme les grandes marques.
Alors, déjà, je pense que c'est bien de rappeler qu'il y a un moment où déjà on leur faisait plus face que maintenant. C'est-à-dire que quand même, depuis la présidence d'Emmanuel Macron, on fait de manière continuelle des cadeaux aux plus riches qui nous coûtent beaucoup d'argent. On a supprimé, par exemple, l'ISF, l'impôt sur la fortune. On a supprimé un certain nombre d'obligations pour les entreprises. Ce qui fait que tous les ans, la France perd 50 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Donc déjà, il y a un vrai travail à mettre en place vis-à-vis de ça. C'est-à-dire mais des choses qui sont en fait très logiques et qui sont du coup portées par la gauche et les écolos de manière répétée tous les ans à chaque fois que le budget est étudié. C'est on ne donne pas de l'argent à des entreprises sans contrepartie. C'est-à-dire, si on donne de l'argent à une entreprise, bah derrière, on veut que l'entreprise, elle ait l'égalité femmes-hommes au sein de son entreprise. On veut que l'entreprise, elle s'engage à engager des personnes handicapées. On veut que l'entreprise, elle respecte des enjeux écolos. Et aujourd'hui, ça n'est pas fait, ou du moins pas assez. Donc déjà, ça, c'est un premier moyen.
Qu'elle embauche aussi, tout simplement. Parce que le CICE, ça devait amener 1 million d'emplois, ils ne sont jamais venus.
Par ailleurs, l'élément de base. Donc déjà ça. Et puis, nous, on pense aussi qu'à un moment, encore une fois, c'est pas normal que les entreprises se fassent de l'argent sur notre dos, mais littéralement sur notre dos. Genre pendant le Covid, les entreprises ont vraiment eu des gains. Certaines entreprises ont eu des gains immenses. Pareil, pendant les tout débuts de la crise de l'énergie, il y a les entreprises qui ont aussi fait des gains énormes. Donc en fait, il y a ce côté, on sait l'argent où est-ce qu'il est. On sait qu'il l'a, donc il faut juste aussi plus taxer les ultra-riches pour qu'elles participent en fait à la solidarité nationale. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaye de prôner. C'est pas facile, pour une raison que j'ignore. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ça ne devrait pas être OK de se faire de l'argent sur le dos des gens. Mais c'est des choses, je pense, qu'il faut dire en fait. Ces personnes, non seulement elles font de l'argent grâce à nous, mais en plus elles veulent essayer de ne pas être solidaires avec nous. Et ça, c'est pas OK, quoi.
Ouais, on rappelle pour compléter les propos d'Anna que les entreprises du CAC 40, donc les plus grosses entreprises françaises, ont versé 100 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2024, ce qui est un nouveau record. Et ça veut dire qu'en fait, c'est justement de la spéculation sur l'argent. C'est de l'argent qui ne va pas à la population, mais qui va à des actionnaires qui juste sont là et enrichissent des entreprises et n'enrichissent pas la population.
J'ai une question.
Vas-y, vas-y.
Pour les multinationales, pour réduire notre impact à notre échelle, vous pensez qu'il faut totalement boycotter ou qu'il faut prendre d'autres mesures ?
Déjà, je pense que il faut se dire le boycott, ça fonctionne. On a tendance à dire ah oui, de toute façon, moi à mon niveau, quoi que je fasse, ça aura pas forcément d'effet. Le boycott, quand c'est vraiment suivi, ça a des effets. Et là, on l'a vu notamment parce que y a eu pas mal de boycotts pendant les derniers mois avec la question de la Palestine. Et en vrai, les entreprises genre McDo, Coca et compagnie, ils ont vraiment eu des effets sur leur compte à la fin. Donc moi, je pense que le boycott, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à mettre en place, mais que c'est encore plus efficace quand c'est mis en place par l'Union européenne et par des institutions qui ont vraiment aussi des poids diplomatiques et vraiment qui peuvent mettre la pression sur les États, quand les États, en l'occurrence, sont en faute, et sur les entreprises aussi, quoi.
Merci Anna. Aujourd'hui, de nombreuses personnes venues d'Afrique et d'Asie meurent dans la Méditerranée. En voulant venir en Europe, on sait qu'avec le dérèglement climatique, il y aura de plus en plus de réfugiés liés au climat. Quelle est la position de votre famille politique et la vôtre sur l'accueil des réfugiés climatiques et la question migratoire dans sa globalité ?
Alors, les écolos ont toujours été pour une politique d'accueil très large des personnes. C'est les héritages d'une philosophie plus genre altermondialiste, sans frontières, etc. En tant que jeunes écolos, du coup, c'est de ça qu'on se réclame. On est vraiment pour un accueil ouvert et digne des personnes, parce qu'en fait, aujourd'hui, les personnes, quand elles arrivent sur le territoire, souvent, elles sont accueillies dans des conditions qui sont vraiment inhumaines. Parfois, elles sont mises dans des centres où elles sont en attente d'évolution de leur situation administrative. Ça peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Parfois, avec des enfants. Et en fait, ces centres, les conditions dedans, ça paraît vraiment à des prisons, quoi. Enfin, en fait, c'est vraiment inhumain. Donc déjà, nous, on veut agir là-dessus, genre sur comment est-ce qu'on accueille les personnes, mais aussi plus largement sur la question de l'accueil tout court, parce qu'aujourd'hui, ça fait pas forcément... c'est plus très populaire aujourd'hui de dire qu'on veut accueillir les gens. L'Europe met de plus en plus d'argent dans le fait de militariser les frontières, d'empêcher les personnes de venir, de les renvoyer dans les pays qui sont du coup à nos frontières. Et nous, du coup, on est vraiment contre ces politiques-là, qui sont, encore une fois, pour la plupart, sont contre le droit international, mais qui aussi sont contre la dignité humaine basique de ces personnes. Donc nous, on est pour un accueil large, digne des personnes, et pour que ces personnes, tout simplement, qu'elles soient mises dans des, euh, dans des circuits où, en fait, elles seront accompagnées aussi administrativement, genre qu'elles seront accompagnées dans leurs démarches. Parce que là aussi, il y a des personnes qui arrivent sur un territoire qui ne savent pas exactement quels sont leurs droits, qui du coup font des démarches, c'est pas la bonne, on dit « ah bah non, tant pis, retourne dans ton pays, puis retente ta chance ». Enfin, en fait, ça n'a aucun sens de faire... de faire vivre des choses pareilles à des personnes qui parfois sont arrivées dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, après des traversées difficiles ou par d'autres moyens. Et donc nous, on est voilà, pour que les personnes aient droit à un parcours d'accueil, en fait, où elles seront prises en charge, elles auront un logement où, où elles pourront être aidées d'un point de vue administratif et juridique, pour ensuite voilà, qu'elles puissent faire leur choix, aller dans un pays, un autre, qu'elles puissent aller librement. Maintenant, voilà, c'est pas forcément la ligne de tout le monde, mais en tout cas, c'est notre ligne à nous, jeunes, sur ce sujet.
Très bien, je te remercie. Timéo, tu avais encore une question.
Pour la politique internationale, j'aimerais savoir votre position et celle de votre famille politique sur le génocide en cours à Gaza et la colonisation de la Palestine par Israël.
Alors, sur cette question-là, les écolos ont été beaucoup critiqués parce qu'on les a trouvés trop absents. Ça, je pense qu'il faut se le dire. Mais pour autant, ils ont essayé d'être mobilisés sur la question. Nous, les écolos, par exemple, il y a eu, là encore, il y a 2 semaines, des députés et écolos qui sont allés en Palestine, justement, en soutien au peuple palestinien. On essaye, par nos quelques moyens, avec nos députés européens, de poser la question de comment, justement, au niveau de l'Union européenne, on peut essayer d'agir. On a des députés et des sénateurs au niveau de la France qui, pareil, essaient de mettre la question sur la table. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais ce qui est certain, c'est que les écolos sont clairs sur le fait qu'on considère qu'il y a un génocide qui est en cours. Enfin, du moins, là, il y a potentiellement un cessez-le-feu qui devrait avoir lieu. Donc, on espère que ce dernier aboutira. Et on est évidemment pour que les otages de part et d'autre soient remis à leur famille. Et puis surtout, on sait qu'il y aura un gros travail qui sera à faire du coup sur la reconstruction derrière de la Palestine, que ce soit en termes très concrets. Enfin, il y a des villes qui ont été rasées littéralement, donc aider à la reconstruction de ces villes, mais aussi à la reconstruction des personnes, en fait, parce qu'en fait ça a été extrêmement violent et ça va créer aussi des traumatismes sur des générations. Donc c'est mettre à disposition de l'aide humanitaire et aussi voilà, être dans une réflexion sur comment est-ce que collectivement on peut essayer de tirer des leçons de ce qui s'est passé pour réussir à faire en sorte que ça n'arrive plus, quoi.
Pas rester aveugle face à la situation.
Très bien. Moi, j'avais une question sur l'écologie et sur les racines écologiques. Je ne sais pas si tu connais le géographe anarchiste Élisée Reclus, fondateur de l'écologie sociale Murray Bookchin, qui ont des discours très radicaux sur l'écologie, qui les associent à de profonds changements sociaux. Est-ce que tu t'estimes être l'héritière de ces écologistes assez radicaux, comme on voit un peu Greta Thunberg aujourd'hui qui a un discours très très fort, pas uniquement sur la question écologique?
Ouais, alors ça, pour le coup, nous, on s'inscrit complètement, en tout cas dans Bookchin, parce que je ne connais pas le premier. c'est vraiment que pour nous, on ne peut pas du tout faire de l'écologie environnementale. C'est que vraiment, l'écologie se prend dans la globalité et du coup, forcément, la question sociale se met est importante. Forcément, la question de nos solidarités avec les autres pays est importante. Et donc, nous, on essaye effectivement d'avoir un discours qui soit... qui soit inclusif, en fait, et qui soit, du coup, pour reprendre ce terme, en fait, intersectionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'écologie si on met de côté les quartiers populaires, si on met de côté les femmes, si on met de côté toutes les personnes qui ne sont pas blanches. En fait, ça n'a pas de sens. Donc, nous, on est pour une écologie qui soit vraiment, qui aille chercher à la racine le problème. Et le problème aujourd'hui, c'est le capitalisme complètement déréglé. Donc, nous, on est effectivement pour mettre en place un autre système. Alors, c'est facile à dire, hein. La question c'est toujours quel système? Alors je ne dis pas qu'on a réponse à tout, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce système-là, tel qu'il fonctionne, précisément, ne fonctionne plus. Donc nous, on est pour justement réussir à aller plus loin dans notre manière de fonctionner, c'est-à-dire réfléchir à comment on travaille, donc c'est-à-dire réduire les heures de travail pour mieux répartir le travail entre les personnes. C'est réfléchir à comment est-ce qu'on vit en société, peut-être réfléchir à des modalités d'habitat qui soient plus collectives, plus intergénérationnelles. Enfin, en fait, réfléchir, enfin, tout ça, en fait, c'est aussi faire de l'écologie. C'est du coup, plus large que juste l'environnement pur. C'est aussi comment on fait société, quoi.
Très bien. Je te remercie. On va passer par un petit jingle avec la technique et on revient tout de suite pour la troisième partie. Alors, en mars 2023, il y a eu des grosses manifestations à Sainte-Soline, t'en parlais tout à l'heure, contre les méga-bassines. Elles ont été violemment réprimées par l'État et la police. L'État notamment parlait d'éco-terrorisme à ce moment-là. Moi, je voulais savoir, est-ce que t'es inquiète du virage de plus en plus sécuritaire des divers gouvernements depuis la présidence de Macron et de la diabolisation des mouvements écologistes ?
Effectivement, il y a un vrai sujet autour de la diabolisation des mouvements écolos et... Je pense qu'il faut aussi bien réaliser ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, par exemple, Sainte-Soline, c'était vraiment... Il y avait un trou de terre. Enfin, il n'y avait vraiment rien. Et ce fameux trou, enfin, cette bassine, ce projet de bassine, a été défendu comme si c'était la Banque de France. Enfin, vraiment, ils ont mis des moyens humains qui étaient complètement disproportionnés. Il y avait des hélicoptères, il y avait des gendarmes. Enfin, vraiment... Et là, ça
c'était quasiment une scène de guerre, ouais.
Ah, mais, oui, en fait, c'est ça. Et les personnes qui étaient en sont... sincèrement sorti traumatisé. Et là, ça en est un exemple, mais de manière plus large, ce qu'on voit, il y a des enquêtes journalistiques qui le montrent, c'est qu'effectivement, des moyens antiterroristes sont utilisés pour suivre des militants écolos, pour essayer de débusquer des actions, etc. Alors que toutes les actions écolos qui ont eu lieu ces dernières années ont été non-violentes. Aucune action écolo qui a visé des personnes, qui aurait pu mettre en danger des personnes. Donc en fait, on met en place des moyens qui sont complètement disproportionnés. Et ça, c'est hyper inquiétant. Et donc, je pense que c'est hyper important qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer. Parce que précisément, on est en train de criminaliser des personnes qui demandent juste à ce qu'on respecte la planète, à ce qu'elles aient un droit à l'avenir, qui sont des choses, encore une fois, hyper basiques. Et qui ne nécessitent pas en fait de mettre en place des moyens pareils, quoi, et qui sont aussi par ailleurs une débauche d'argent public. Genre, on aurait pu mettre cet argent ailleurs. Mais je pense que c'est hyper important que là on réalise qu'effectivement l'écologie, en tout cas la vraie écologie, l'écologie qui essaye vraiment de mettre en avant quand des projets sont inutiles, aujourd'hui elle est loin d'être aimée par les gouvernements et qui font même tout pour nous empêcher de prôner ces messages là, quoi.
Effectivement, c'était le cas pour le projet de la 69 aussi, qui est complètement inutile et qui a été reconnu. Djelloul, vas-y à toi.
Ces derniers temps, l'actualité politique est brûlante en France. Êtes-vous favorable à la censure du gouvernement Bayrou ?
Brûlant, ça.
Alors oui, je pense qu'en fait, il ne faut pas se leurrer sur ce qui va se passer avec ce gouvernement-là. Si vraiment Emmanuel Macron avait voulu écouter ce que souhaite le peuple, il aurait... mis en position de gouverner une personne du Nouveau Front Populaire, puisque c'est le Nouveau Front Populaire qui arrivait en tête des législatives. Il ne l'a pas fait, donc il nie complètement par là même en fait les vrais...
Du peuple.
Pardon ?
Et les décisions du peuple.
Ben oui, complètement. En fait, quand dans tous les sondages, on voit que les gens ils veulent taxer les riches, qu'ils veulent revenir sur la réforme des retraites... littéralement tout ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas essayer d'attendre d'eux beaucoup plus et que oui, il faut censurer et que par ailleurs, si on ne le fait pas, ce ne sera pas non plus... je pense que ce ne serait pas être en accord avec ce qu'on a essayé de prôner pendant toute l'année. Donc même si voilà, on sait qu'au niveau des médias ou autres, ce sera peut-être compliqué à tenir la ligne, je pense qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qui est attendu des gens, en fait. C'est que la politique, elle soit un peu... Ouais, que ce soit des personnes qui s'engagent sur des sujets et qui tiennent la ligne sur ce sujet, que quand elles font des promesses, elles répondent à leurs promesses, elles les tiennent. Et que c'est justement en ne tenant pas ces promesses-là qu'en fait, les gens sont déçus et ensuite ne croient plus du tout en nos partis, quoi. Donc, moi, je suis pour.
Merci. Timéo, à toi.
Il y a de plus en plus de climato-sceptiques qu'on retrouve notamment beaucoup sur Internet et je me demande en fait qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ne croient pas au dérèglement climatique.
Je pense que plus le mur écolo sera proche de nous, plus il y aura des personnes qui vont essayer de l'ignorer. Ce qui est en fait un réflexe, j'ai envie de dire, humain assez normal, genre le déni. mais que pour autant, nous, il ne faut vraiment pas qu'on lâche la ligne. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire là en 2025, c'est des choses qui se savent déjà depuis les années 80. Enfin, en fait, les scientifiques qui travaillent sur le sujet depuis, du coup, 40 ans, on a assez de données chiffrées, on a assez d'exemples concrets, genre littéralement des incendies, des sécheresses tous les étés, des pluies qui ne s'arrêtent plus tous les automnes. Enfin, en fait, on a assez d'éléments qui nous prouvent qu'il y a effectivement un petit sujet et qu'il faut qu'on agisse assez rapidement. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser nous déstabiliser par les discours des climato-sceptiques et qu'il faut qu'on essaye justement de leur répondre. Alors, je ne dis pas que c'est évident, mais du coup, on a assez de chiffres, on a assez de données, on a assez d'exemples normalement pour pouvoir leur répondre. Et généralement, ce qu'on voit, c'est qu'eux, en retour, n'en ont pas trop d'arguments. Donc, normalement, ce n'est pas trop compliqué de débattre avec eux sur ce sujet-là.
Ouais, il faut s'instruire et aller chercher des données par nous-mêmes aussi.
Bah, c'est ça, là, on sera plus solide pour ces débats-là, quoi.
Effectivement, mais ce n'est pas toujours évident, parce que là, on parle notamment de désinformation sur Internet, où il y a beaucoup de désinformation. On sait qu'il y a notamment des personnes qui sont platistes. Et par exemple, aller parler à ces personnes-là d'un rapport du GIEC qui, pourtant, est toujours de plus en plus alarmiste. Et on voit que, d'après leurs données, ça va encore pire que leurs pires prévisions. C'est assez compliqué.
Après, je pense que, et c'est le cas pour tous les combats, on n'arrivera jamais à avoir 100% des personnes qui seront d'accord avec nous et qui se battront avec nous. En réalité, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait... Et pour le coup, je pense qu'en France, il y a quand même une majorité de personnes, je ne dis pas que c'est une grande majorité, mais au moins une majorité qui est assez convaincue par ces sujets-là, et qu'il faut que ce soit aussi cette majorité-là qui embarque tout le monde avec elle, quoi.
Très bien.
Et vous avez des petits conseils à donner aux jeunes pour s'informer sur des sources fiables et... on va dire pour que leur avis soit pas biaisé et qu'ils arrivent à se faire leur propre opinion.
Bah, en vrai, il y a des médias qui sont super bien, et notamment des médias indépendants, donc qui ne dépendent pas de milliardaires qui veulent absolument nous distiller leurs idées. Je pense à des médias comme Mediapart, Blast, enfin plein de médias qui sont vraiment chouettes, donc n'hésitez pas, et qui surtout sont hyper accessibles du coup en ligne. Et franchement, débattez aussi entre vous, genre parlez des choses, dites-vous les choses, c'est aussi hyper important. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent aussi par la discussion directe entre nous, en fait.
De bouche à oreille, ouais.
Et qui est plus simple que de... Enfin, tu vois, honnêtement, les gens ne vont pas trop dans les réunions politiques, enfin, on le sait. Ouais. Mais du coup, quand nous, on sait quelque chose, qu'on est convaincu de cette chose-là, je pense que c'est aussi un peu notre devoir d'en parler à notre famille, d'en parler à nos amis, pour aussi un peu propager tout ça, quoi.
Merci. Il y a quelques semaines, ta secrétaire nationale Marine Tondelier a fait une déclaration qui a beaucoup fait parler, notamment sur la lutte des classes. Elle a dit, à la question « Il faut la fin du capitalisme ?», elle répond « Si vous voulez, il faudra m'expliquer ce qu'on fait à la place ». On a l'impression que pour certaines personnes, chez les écologistes, notamment les représentants, la fin du capitalisme, c'est un peu un tabou, alors que le capitalisme pollue, détruit la planète. Et du coup, on a aussi l'impression des fois qu'il y a une vraie fracture entre la base militante et les représentants. Yannick Jadot encore plus que Marine Tondelier.
Déjà, je pense que c'est pour resituer, les écolos, c'est un parti où il y a vraiment plein de tendances différentes. Il y a vraiment des écolos qui sont très, très, très à gauche, des écolos qui le sont de manière plus modérée. Enfin, c'est un parti qui, et c'est aussi son histoire, de base Europe Écologie Les Verts, c'est quand même la fusion de deux partis différents. Enfin, en fait, il y a vraiment de tout chez les écolos. Il n'y a pas, effectivement, le parti a un programme, etc., mais il n'y a pas une seule ligne, il y en a plein, il y en a plusieurs. Et du coup, les programmes essaient de faire la synthèse de ces différents courant-là. C'est vrai, je pense qu'il y a des personnes qui, au sein des écolos, ne sont pas forcément d'accord sur la question du capitalisme. Pour autant, je pense qu'il y en a de plus en plus qui le sont, pour le coup. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a encore quelques années, par exemple, les écolos décidaient de ne pas choisir. Genre, ils disaient qu'ils étaient ni de droite ni de gauche. Aujourd'hui, c'est plus du tout un débat, en fait. Tout le monde dit que les écolos sont de gauche.
Vu que Macron a dit ça, c'est compliqué de rester sur cette
ligne. Ouais, c'est plus à la mode, cette... donc effectivement, aujourd'hui, les écolos se disent de gauche, acceptent aussi, du coup, l'héritage de la gauche qui va avec. Et dedans, il y a l'anticapitalisme. Par contre, effectivement, Les écolos, c'est pas les communistes, c'est pas les insoumis, c'est pas les socialistes. Ils ont aussi un héritage qui leur est propre. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'autres tendances. Par exemple, quand on prend quelqu'un comme Latour, lui, ce qu'il théorise, c'est le fait qu'il faudrait qu'il y ait une autre classe, une classe écolo qui émerge. Du coup, c'est des débats qui sont en cours au sein des écolos. Il n'y a pas encore eu trop forcément de décisions là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que la ligne anticapitaliste est quand même assez forte. Et d'ailleurs, Marine Tondelier avait fait une autre interview après dans Reporter pour revenir là-dessus, où elle disait qu'effectivement, c'était important de se battre contre le capitalisme.
Très bien. Et toi, personnellement, tu connais sûrement la maxime politique très connue, l'écologie sans lutte des classes et du jardinage. Est-ce que toi, tu crois en la lutte des classes? Est-ce que c'est quelque chose que tu prônes?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, si la gauche et les écolos ont du mal à convaincre plus largement que notre base, c'est en partie parce qu'effectivement, on a arrêté de faire corps, qu'on a arrêté de faire classe. En fait, quand on prend l'extrême droite, l'extrême droite, ils ne se sont pas compliqués la vie. Hein. Ils ont nommé un ennemi commun. L'immigré. Parfois, l'ennemi, c'est les femmes, mais du coup, c'est très clair dans leur viseur. Enfin, c'est vraiment, on a des problèmes, nous, on est un groupe ensemble, de blancs, solides, hommes, bien.
C'est une cible.
Mais c'est ça, en fait. Et du coup, ça crée de la cohérence entre eux, quoi. Et du coup, ils se battent ensemble contre ça. Et du coup, alors même que l'extrême droite, ils sont plus divisés même que la gauche, genre entre les royalistes qui ne le sont pas, ceux qui sont plus à l'international et tout, ils arrivent quand même à avoir un ennemi commun et du coup, à avoir un but commun. Et du coup, moi, je crois foncièrement dans le fait qu'il faut qu'à gauche, on arrive aussi à refaire un peu refaire corps. Et en fait, a aussi nommé des ennemis communs qui sont effectivement les ultra-riches, qui sont effectivement les pollueurs, et en fait, qu'on arrivera aussi, comme ça, à convaincre des personnes et aussi à projeter un projet de société. Parce que c'est aussi ça que fait l'extrême droite. En mettant sur le dos de tous les gens tous les problèmes, du coup, ils disent « Ah bah du coup, si on met de côté ces problèmes, notre avenir sera meilleur. » Du coup, je pense que nous aussi, il faut qu'on arrive à montrer que ce qu'on propose peut être vraiment bien et peut vraiment plaire à plein de gens, quoi.
Les garçons, vous, quand on parle de lutte des classes, est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que vous comprenez de quoi on parle?
Les différences sociales, les différences économiques aussi.
Effectivement, mais ça va plus loin que ça. En fait, la lutte des classes a été théorisée par le philosophe allemand Karl Marx, qui est un philosophe communiste, qui a quasiment créé l'idéologie communiste. Et en fait, ce serait que les patrons, ils ont leurs intérêts, et que les salariés ont leurs intérêts, et que, en fait, c'est des intérêts qui sont divergents. Donc, ils ne vont pas ensemble, et que soit on est ensemble... les salariés, les travailleurs pour se battre pour nos intérêts, soit en fait on va laisser les patrons gagner et en fait on est un petit peu à une étape du monde où c'est les patrons qui gagnent. Voilà.
Et on reste muet et on se laisse faire.
On a du mal en tout cas à inverser le rapport de force, tout à fait.
Et après, à se faire entendre aussi.
Exactement.
Forcément, ils rachètent des médias, maintenant ils sont également dans des gouvernements, ils ont des avantages quand même.
Voilà, exactement. C'est quand même un ennemi qui est très très puissant. Anna le précise, effectivement, ils ont des médias, ils ont tous les pouvoirs économiques, etc. Donc effectivement, c'est une lutte qui est un peu déséquilibrée. C'est un peu tous les pouvoirs, ceux de l'argent, etc., contre uniquement la force du nombre. On arrive bientôt à la fin de l'émission, donc ça va être les dernières questions. Anna, on en a parlé au début, tu as un engagement féministe qui est très très fort. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, le président, avait identifié l'égalité homme-femme comme grande cause de son quinquennat. Que ce soit sur la question des violences, des salaires ou des soins, on peut être, je crois, d'accord sur le fait que c'est un échec, hein, sa grande cause du quinquennat. Et toi, quelles sont les mesures d'urgence que tu prendrais pour une meilleure égalité entre les femmes et les hommes?
J'avoue qu'au début, quand t'as dit que t'es très féministe et que t'as parlé de Macron, j'étais en mode waouh, quel est le lien?
Mais c'était la grande cause, il avait dit la jeunesse et le féminisme sont les deux grandes causes du quinquennat. On a vu ce que ça a donné.
Alors, nous, ce qu'on prône, c'est, en fait, d'ailleurs, en commun avec ce que prônent la plupart des associations féministes, c'est de mettre sur la table 3 milliards d'euros par an pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça passe, où passerait du coup cet argent? C'est dans la formation des policiers policières qui du coup sont aussi en première ligne pour l'accueil par exemple des femmes victimes de violences. C'est dans aussi les évolutions législatives parce que par exemple aujourd'hui il n'y a que 1% des cas de viol qui sont véritablement condamnés. Donc on voit qu'il y a aussi tout un travail à faire auprès des magistrats, au niveau de la justice, en fait, il faut qu'on mette en place un certain nombre de choses pour qu'aujourd'hui, la question féministe soit pleinement prise en compte. L'argent passerait aussi par le soutien aux associations qui font aussi un travail qui est incroyable dans l'accompagnement des personnes victimes de violences. Donc déjà, ce serait ça, ce travail sur les 3 milliards et aussi... un pan forcément important, j'en parlais tout à l'heure là, sur les cours, sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, qui en fait, moi, me semble être fondamental, parce qu'en fait, en faisant de la prévention dès le plus jeune âge, c'est là aussi où on prévient, en fait, on empêche les violences d'arriver par ailleurs. Et donc, effectivement, il faut qu'on ait de l'argent pour réparer le mal qui a été fait, mais je pense qu'il faut aussi qu'il faut qu'on ait vraiment toute une politique pour essayer de faire en sorte que ces mots-là n'arrivent pas déjà de base. Donc voilà, nous, ce qu'on essaye de prôner chez les écolos.
Très bien. Et vous, les garçons, est-ce que c'est des choses dont lesquelles on vous parle à l'école, l'égalité homme-femme ? Vous êtes sensibilisés là-dessus ou pas du tout ?
Non.
Non, pas vraiment. Après, moi, par exemple, je côtoie des personnes, que ce soit dans mon cercle familial ou amical. On sait que des fois, on est amené à parler de ça. Mais le fait qu'on soit mal peut-être instruit dès notre jeune âge, on va dire à la petite enfance, la moyenne enfance ou l'adolescence, des fois, on n'a pas assez de connaissances pour pouvoir en parler assez clairement sur le sujet.
D'accord. Donc toi, c'est uniquement une démarche personnelle. Il n'y a rien qui a été fait à l'école pour vous sensibiliser à ce problème.
À l'école, on a des discours qui sont généraux où on dit qu'il faut que les femmes soient égales aux hommes, pas refaire les erreurs du passé. Mais quand on creuse un peu et qu'on regarde réellement, on voit qu'il n'y a pas forcément d'efforts concrets qui sont faits.
Très bien, je te remercie pour ta réponse. Anna, là en ce moment, du coup, on l'a dit tout à l'heure avec Jelloul, il y a la censure du gouvernement qui pourrait arriver. Et on a vu qu'au printemps dernier, enfin à l'été dernier même, avec la menace très présente de l'extrême droite, il y avait du coup le NFP qui s'est formé. On voit qu'il y a de plus en plus de fractures au sein du Nouveau Front Populaire. Est-ce que toi, tu crois encore au Nouveau Front Populaire et à l'alliance des partis de gauche ?
Oui, je ne sais pas si on est encore nombreux. Non, en vrai, je pense que la question du NFP est évidente pour plein de gens encore et qu'au contraire, la question de la fracture est plus mise en avant par ceux qui voudraient qu'il se fracture. En fait, on l'a vu, nous, par exemple, avec les jeunes écologistes, on était pour l'union de la gauche dès les européennes. Ça nous semblait être hyper important, en fait, de réussir.
Alors que ça avait été refusé par les écologistes au début.
Effectivement, les écologistes avaient dit assez tôt qu'ils ne souhaitaient pas s'engager sur une liste d'union de la gauche, pour des arguments qui leur sont propres. Nous, on pensait que c'était dommage, qu'il fallait quand même essayer d'y réfléchir pour faire un travail ensemble. Bon, ça n'a pas eu lieu. on a eu le score qui était donc avec le RN plus qu'en tête, ce qui a provoqué du coup cette dissolution où là aussi, il y avait du coup le risque que le RN soit encore une fois particulièrement fort. Donc moi, je pense qu'effectivement, sur toutes les échéances où c'est possible, il faut vraiment qu'on fasse en sorte d'avoir des listes de gauche. Parce qu'en fait, on n'a peut-être pas les mêmes moyens. On n'a peut-être pas non plus la même philosophie de base sur justement la lutte des classes dont on a parlé tout à l'heure. Parce que la lutte des classes, ça reste quand même l'idée... Enfin, comment dire ? L'essence même de la lutte des classes, c'est quand même l'idée de production. C'est quand même, ça s'inscrit quand même dans l'idée qu'il faut produire plus et mieux redistribuer les fruits de cette production-là, là où les écolos essayent de s'éloigner un peu de la philosophie de la production. Donc, effectivement, on n'est pas les mêmes, mais pour autant, on a les mêmes constats et on a quand même envie d'arriver aux mêmes solutions. Donc, je pense que c'est hyper important qu'on arrive quand même à avoir des lieux de débat, des lieux où on arrive à faire du fond et surtout qu'on tienne, en fait, qu'on continue à être les uns avec les autres. Parce qu'en fait, je pense que c'est illisible déjà d'être ensemble, puis pas ensemble, puis en fait, si. Enfin, en fait, plus personne ne comprend rien. Donc, rien que par souci de clarté, c'est bien d'être ensemble à chaque fois qu'on le peut. Et puis surtout, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à mieux avoir nos débats en interne et pas forcément sur la place publique, parce que du coup, encore une fois, on ne sait plus trop où on en est et ça fait du mal à tout le monde, je pense.
Très bien, je te remercie pour cette réponse très claire. Donc oui, il faut l'union. Les garçons, on arrive à la fin de l'émission, ça vous a plu ?
Ça nous a plu, oui.
Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui ?
Ouais.
Vous voulez refaire l'émission ? Ça vous plairait ?
Ouais, ça nous plaît.
Super, je suis très content aussi. Anna, comment ça s'est passé pour toi ?
Bah, c'était cool. Merci beaucoup pour l'invitation.
Très bien. Moi, je te remercie. Merci à Jason, à la technique. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui vont nous écouter. Bonne fin de journée à tout le monde. Et on se retrouve le mois prochain dans la prochaine émission de Politiquement Vôtre sur Mon Paris FM. Au revoir.
Paris FM.